Descartes affirme « je pense, donc je suis ». Est-ce inductif ou déductif ? Alors, il faut demander ça à Descartes. Sûrement qu'il ne pense ni à l'inductif ni au déductif. Il passe de « je pense » à « je suis ». Vous comprenez ? Comme c'est une erreur. C'est pas juste. Je pense donc « je suis ». La vérité, c'est il pense. Je ne peux pas induire l'existence de ma pensée. L'existence est avant ma pensée. Donc si vous induisez, ou déduisez si vous voulez, l'existence de la pensée, évidemment pas juste. Au fond, c'est une espèce d'identification que Descartes fait. Je pense, je suis. Autrement dit, dans le je suis, dans le je pense, est inclus je suis. Donc, identification. Son « je pense » est-il cause de manifestation de son « je suis » ? Ça, regardez d'extérieur, je ne crois pas que ça va si loin. Et parce que vous prenez le « donc » avec une valeur qui le représente. Donc, c'est à partir d'un principe, on émet une conclusion. Donc, je pense, est-il cause de manifestation de je suis ? Je ne crois pas du tout que c'est la pensée de Descartes. La pensée de Descartes, c'est je pense, donc je suis. C'est identique. Il n'y a pas de raisonnement. Vous mettez un raisonnement parce que vous mettez déjà une distinction entre la pensée et l'existence. Mais Descartes veut montrer qu'il n'y a pas de distinction entre la pensée et l'existence. Donc le « donc » ne signifie rien du tout. Je pense, je suis. Je crois que c'est comme ça qu'il le pense. Donc, il ramène l'existence à la pensée. Et c'est ça, toute la philosophie de Descartes. Autrement dit, la pensée est antérieure à l'existence. C'est sûr que pour Descartes, la pensée est antérieure. Donc, c'est en raison de toute la pensée de Descartes que j'explicite son affirmation. Je ne veux pas essayer de comprendre son « je pense donc je suis » dans une perspective aristotélicienne. Puisque ça n'a rien à voir avec ça. Vous nous avez dit, le dernier cours de critique, que la philosophie de Kant avait quelque chose de juste en tant que l'activité artistique implique la primauté du sujet sur l'idée qu'il veut réaliser. Cependant, est-ce que Kant donne place à l'habitus d'art ? Non. pas qu'on puisse, à partir de Kant, donner une philosophie de l'art. Moi, j'essaie de comprendre Kant et dire pourquoi il dit ça. Vous comprenez ? Alors, il est sûr que ma connaissance artistique est première. Et donc, ce qu'il y a de vrai dans la connaissance artistique, c'est de passer de l'idéa à la réalisation. L'idéa est la mesure de la réalisation. Donc l'idéa est première. Est-ce qu'il est capable d'entrevoir que l'homme peut se transformer qualitativement lui-même en faisant son œuvre? Demandez-lui. Je ne crois pas. Est-ce qu'il est capable d'entrevoir que l'homme peut se transformer qualitativement lui-même en faisant son œuvre? Je ne crois pas qu'il va jusque-là. Vous regardez que l'artiste, en travaillant et en réalisant son œuvre, en effet, peut se transformer et retrouver une vision réaliste. Un véritable artiste passe de son idée à la réalité et reconnaît que la réalité est plus que son idée. Parce qu'il travaille pour ça. Et son œuvre est plus que son idée. Ça, c'est une vue saine de l'activité artistique. Quand on vous demande de faire, par exemple, d'avoir un métier artistique pour vous corriger ou pour vous remettre dans la réalité. C'est ça. C'est de comprendre que l'œuvre que vous faites finalise votre idéa. Et par le fait même, vous reprenez contact avec la matière. Parce que quand vous réalisez une œuvre, vous reprenez contact avec la matière. Et vous comprenez que l'œuvre réalisée avec la matière est plus que votre idéa. L'idéa est d'une certaine façon mesure, et en même temps, elle est obligée de considérer que l'œuvre, la matière, s'ajoute et finalise son idéa. Un véritable artiste ne s'arrêtera pas à son idéa. Il dira « Ah, je n'arrive pas à réaliser ce que je voudrais. Et ce que je fais n'est pas ce que je veux. » Donc il mesure ce qu'il a fait par son idéa. C'est vrai, d'une certaine manière. Mais en même temps, il juge que la réalisation n'est pas ce qu'elle devrait être. Ce qui prouve qu'il considère que l'œuvre qu'il fait le finalise. Et réaliser une activité artistique pour comprendre que justement que l'œuvre qu'on fait est plus que son idée, que notre idéa, c'est retrouver le sens du réel. Le sens du réel, vous le découvrez de multiples façons, mais il y a une façon très élégante de le retrouver, c'est justement de réaliser quelque chose que vous portez en vous comme une idée fixe, une idée qui me prend, la réaliser, et en la réalisant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dépasser votre idéal? Et pourquoi vous dépassez votre idéal? Parce que la matière que vous prenez s'impose à vous comme au-delà de votre idée. Un artiste qui n'est jamais content de ce qu'il fait, et c'est vrai d'une certaine manière, mais on sera là pour lui dire « Mais ce que vous faites est déjà très bien. Acceptez que ce passage de l'idéa à la réalité nécessairement vous met dans une situation d'être un peu serviteur de la réalisation. Vous acceptez que la réalisation est donc plus que votre idéa. Alors, l'idéa, elle est bien mesure, formellement. Et elle est mesurée matériellement. Donc, existentiellement, elle est mesurée. Et c'est ça qui vous corrige. Et c'est ça qui vous rend réaliste. Pourquoi travailler manuellement nous remet dans le réel, nous permet d'avoir un contact avec le réel qui corrige, et qui corrige une idée qu'on considérerait facilement comme mesure. Il y a une correction de la réalité, donc de la cause matérielle. Quand vous réalisez quelque chose, vous avez un contact avec la cause matérielle. Et ce contact avec la cause matérielle vous purifie, vous empêche de rester dans l'idéal. Et c'est dans ce sens-là que l'activité artisanale a du bon, qu'elle nous rappelle que la matière est là et que la matière nous corrige. Pour sortir de l'idéalisme que nous portons toujours en nous, à cause du milieu ambiant, le milieu qui nous entoure aujourd'hui est un milieu idéaliste. Le virtuel passe avant tout. Comment le corriger? Comment, étant idéaliste, revenir au réalisme? C'est une question très importante pour nous. Revenir à une attitude plus réaliste, plus vraie. C'est de reprendre contact avec la matière. Parce que la matière, vous ne la faites pas. La matière, elle s'impose à vous. Et dès que vous la travaillez, vous comprenez très bien qu'elle s'impose. Vous ne la fabriquez pas. Vous la transformez. Et vous la respectez. Parce qu'on transforme autrement le fer que le bois. On transforme autrement la pierre que le bois. Donc on respecte la matière. Et on la redécouvre. Et c'est comme ça que l'activité artistique peut me redonner conscience du réel. l'affirmation de Descartes, je pense donc je suis, est-ce que ça me rétablit dans le réalisme? Non. C'est je pense qui mesure je suis. Je crois que c'est ça la véritable pensée de Descartes. Je pense, mesure ce que je suis. Alors, en réalité, vous existez avant de penser. Bien sûr, heureusement. Et tous les jours, quand vous vous endormez, vous acceptez que votre existence soit première avant votre pensée. N'y pensez pas trop. Mais tous les jours, si je pense était la mesure de je suis, mais je n'aurais pas besoin de me reposer. Je pense, ce serait parfait. Ça contient je suis. Alors, au fond, le problème de tout ça, c'est la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? Je pense. Et je pense tout court. Je ne dis pas que je pense à quelqu'un. Je pense à mon ami. Quand vous dites « je pense à toi », vous restez dans le réalisme, puisque toute votre pensée est pour lui. Tandis que quand vous dites « je pense », votre pensée se retourne sur vous et vous vous gargarisez de votre pensée. Je pense. C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est « je pense ». À qui ? Oh, ça m'est égal. Je pense. Vous voyez, c'est vous. Et c'est vous que vous regardez avant tout. Alors, essayons de voir ce qu'il y a de juste dans ce point de vue-là. Parce qu'il y a quelque chose de juste. Le propre de la pensée, c'est d'être conscient. L'activité manuelle est consciente par votre pensée. Elle n'est pas consciente par elle-même. Vous apercevez quand vous êtes en colère. Et la gifle va plus vite que la pensée. Ce qui montre bien que la gifle par elle-même n'est pas la pensée. Quand vous êtes agacé, alors pour un animal qui est à côté de vous, le chien vous agace tout d'un coup. Quand ce n'est pas le chien, quand c'est vous, ça va encore. Mais quand c'est pas le chien ni vous, que c'est un autre, c'est ennuyeux. Vous pouvez lui dire élégamment, pas la peine d'insister, tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais il répétera indéfiniment. Alors, essayons de comprendre. La conscience suit l'acte intellectuel. Le propre de la pensée, c'est justement d'avoir conscience que je pense. Pourquoi ? Parce que le propre de la pensée est justement d'être au-delà de la matière. C'est parce que ma pensée est au-delà de la matière que je peux avoir conscience que je pense. Dès qu'il y a matière, il y a devenir. Et le devenir fait que je passe de A à B. Quand je suis à B, je ne suis plus à A. Et le propre du mouvement, c'est d'être successif. Une partie à côté de l'autre partie, et ainsi de suite. Le propre de la pensée, c'est d'être immanent. Ma pensée est immanente. Par le fait même, le terme de ma pensée est présent au commencement. Une immanence, je pense. Et je sais que je pense. J'ai conscience que je pense. Donc, vous avez donc conscience de penser. De penser à quelqu'un, de penser quelque chose, de penser. Et vous avez conscience de penser à rien, je pense. Et au fond, quand on dit je pense, j'ai conscience de penser, et de penser à qui, de penser à quoi, je pense. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça, de dire je pense, et vous supprimez l'objet, vous supprimez la réalité, vous vous regardez penser. Quand je dis je pense à Pierre, c'est Pierre que je regarde, et toute ma pensée est ordonnée à Pierre. Tandis que quand je dis je pense, je reste dans l'immanence de ma pensée. Parce que j'ai l'impression de penser à quelqu'un avec l'objet, ça enlève la pureté de la pensée. Ce qui est fou. Mais il y a ça. Il y a une pureté de la pensée qui se veut n'être que pensée. L'objet enlève cette pureté de la pensée, puisqu'on pense à quelque chose. Donc on diminue le point de vue de la pureté de la pensée. Je pense, veux cette pureté. Je ne pense à rien. Et vous ne dites pas je pense à rien. Je pense. Donc, à ce moment-là, c'est l'activité de pensée qui se juge elle-même pour être dans la pureté de pensée. Je pense. Et cela suffit. Je pense. Vous avez donc une conscience intellectuelle. Donc, je pense. Donc, je suis. Ah. Vous voyez, je passe de ma conscience de pensée à mon existence. Comme si mon existence était en dépendance de ma pensée. Ce qui est faux. Puisque lorsque vous dormez, vous existez et vous ne pensez pas. Votre existence est avant votre pensée. Donc, je pense, donc je suis. On veut extraire le « je suis » de la pensée. Alors, la pensée existe. Mais elle existe selon telle modalité. Puisque le chien existe, mais il ne pense pas. Je veux bien que Descartes n'existait que dans sa pensée. Et nous affirmons nous existons en dehors de notre pensée. Je ne pense pas toujours, tandis que j'existe toujours. Oui. Donc, nous voyons l'erreur de Descartes, de dire « je pense donc je suis ». Si « donc je suis », si c'est une inférence, ça prouve que la pensée contient l'existence. Et mon existence, elle est inclue dans ma pensée. Et donc, mon existence dépend de ma pensée. C'est là l'erreur. Parce que mon existence ne dépend pas de ma pensée, c'est ma pensée qui dépend de mon existence. Penser à son existence. C'est le propre de la pensée. Et j'ai donc des niveaux différents de conscience. Et ça, c'est capital de bien comprendre ça. J'ai la conscience morale à partir de l'activité morale. Donc, une activité qui implique connaissance et volonté. J'ai conscience de vouloir. J'ai conscience d'avoir pris la résolution de toujours travailler avec courage. Conscience, ça. J'ai conscience, lorsque je raisonne au plan mathématique, j'ai conscience de l'élaboration d'une science. J'ai conscience de dire qu'est-ce que l'être ? De passer de la conscience normale de ma connaissance à une conscience nouvelle de mon intelligence. J'ai conscience de passer du domaine scientifique à un domaine qui est plus radical que le point de vue scientifique. Donc quand on dit métaphysique, c'est-à-dire j'entre dans une conscience de pensée qui est plus radicale. Et étant plus radicale, cette pensée peut aller beaucoup plus loin. J'ai conscience de prouver l'existence de Dieu, l'existence d'un être qui me dépasse. J'ai une conscience psychologique de ma métaphysique. J'ai conscience d'affirmer certaines choses au niveau mathématique. Autrement dit, ma conscience suit ma connaissance. Et tous les degrés possibles de connaissance, j'en ai conscience. C'est très important de remarquer que la conscience est une propriété de la connaissance intellectuelle. Et comme je peux avoir une connaissance affective, une connaissance morale, j'aurai une conscience morale. Et c'est pour ça que quand on affirme « je fais telle chose en raison de ma conscience », on a envie de dire de quelle conscience. Parce que quand on dit uniquement conscience, on ne précise pas le fondement. Donc on ne précise pas la qualité de cette conscience. Vous ne pouvez pas poser la conscience pour elle-même, puisqu'elle est toujours une propriété de mon acte de connaissance. Oui, c'est important ça, puisque j'ai conscience que cet acte est libre et que je pose un acte libre. J'ai conscience à cause de telle ou telle activité intellectuelle. Et c'est cette activité actuelle qui est le fondement de ma connaissance et de ma conscience. Et je peux avoir conscience alors d'un acte libre. Je peux avoir conscience d'un acte qui n'est plus libre. Et je pose cet acte à cause de tel événement. Et je dois dire les événements. Je ne peux pas dire je fais cet acte par conscience. Et je dirais, mais tous vos actes humains sont faits par conscience. Autrement, ce ne serait plus un acte humain. Si c'est un acte humain, vous avez conscience de le faire, un acte humain. Donc, ça n'a pas de raison de poser un acte, de dire « je pose cet acte par conscience ». Ça ne veut rien dire, philosophiquement. Ça ne veut rien dire. Moralement, ordinairement, ça veut dire tout simplement « je pose cet acte en raison de ma conscience morale, cet acte n'est pas conforme à la bonté. Et cet acte est mauvais. » Oui, mais on devrait le dire. On devrait dire, dès que je dis que j'ai conscience, est-ce que c'est à cause de la métaphysique? À cause c'est des mathématiques? À cause de ma conscience morale? De ma conscience affective? De moins, la conscience en elle-même, elle est toujours relative à l'acte d'intelligence que vous posez. Et donc, dès que vous parlez de conscience, vous devez ajouter la conscience de votre acte intellectuel. La conscience ne peut pas être une conscience pure. Elle est toujours propriété d'un acte intellectuel. Et ma conscience est plus ou moins profonde suivant qu'elle repose sur un acte intellectuel plus ou moins profond. Et la conscience est toujours quelque chose de relatif à la connaissance. Vous ne pouvez pas couper la conscience et la séparer de l'acte de connaissance qui en est sa source. Elle est une propriété. Ça, c'est très important de saisir cela. Parce que ça prouve que vous ne pouvez pas finaliser votre vie sur la conscience. Vous finalisez votre vie à propos d'un bien que vous cherchez. Vous pouvez dire, la vie que je mène là ne me permet pas d'atteindre ce bien contemplatif. La vie que je mène comme ça ne me permet pas de comprendre la finalité de l'amitié. Mais mettre la conscience comme un absolu, ça n'a pas sens. C'est donc très important de voir que la conscience est une propriété